Donc dans les bulles space, il n'y a en gros que des noms à la barre. Donc le règlement définit cette ségrégation, elle définit d'autres choses. D'abord, elle définit du coup les responsabilités, quel règlement s'applique à quel type d'acteur, quel type d'opérateur, aviation habitée, aviation pas habitée, notamment. Elle définit aussi les responsabilités, par exemple, des prestataires de services de navigation aérienne, y compris au sein de l'espace U-Space. Et la Commission européenne a déclenché notamment un principe, a inventé un principe clé, qui est la reconfiguration dynamique de l'espace aérien. C'est-à-dire que dans un espace aérien contrôlé, et uniquement dans les espaces aériens contrôlés, les ANSP ont la responsabilité de s'assurer de la configuration de l'espace U-Space de sorte que l'aviation habitée et l'aviation non habitée ne se rencontrent pas, soient séparées. Alors, ça reste encore très théorique, parce qu'en réalité, ceux qui font un peu d'opérationnel à l'exploitation savent que ça reste très théorique et c'est quasiment impossible à garantir, si ce n'est que parce qu'il y a toujours des cas d'urgence, des cas non prévus, des aléas, des pannes, des problèmes et tout un tas de choses. Donc, bien sûr, il faudra que les études de sécurité montrent que les cas résiduels restent acceptables et maîtrisables. Et il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Hein. Ça, pour le coup, c'est encore, pour moi, un pan de recherche et de R&D, je pense. Bref, toujours est-il que le principe de base, c'est que normalement, voilà, il ne devrait pas y avoir d'aviation habitée dans les bulles U-Space. Mais le règlement prévoit quand même que, donc d'une part, le contrôle aérien reconfigure l'espace U-Space de sorte que l'aviation habitée n'est pas à y pénétrer. Et d'autre part, il y a des règles prévues pour l'aviation habitée dès lors qu'elle pénètre un espace U-Space. Voilà le principe. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore à prouver dans ce concept-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont absolument pas mûres et qui ont été un petit peu sorties du chapeau par la Commission européenne. Je vais être tout à fait clair avec vous. Donc il y a certaines choses qui vont nécessiter un petit peu d'expérimentation, de tests, d'études. Mais voici les grands principes. Mais il n'y a rien d'impossible. Enfin, je veux dire, c'est pas absurde, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas été adopté à l'échelle de l'Union européenne. En revanche, il y a quand même un certain nombre de concepts qui ne sont pas complètement éprouvés, je dirais encore. En tout cas, éprouvés dans un contexte U-Space. Hein. Bien sûr, la configuration dynamique des espaces aériens, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des décennies par le contrôle aérien. On le fait régulièrement avec notamment nos partenaires militaires. Donc, c'est des choses qu'on sait faire. Sauf qu'on sait le faire dans un contexte ATM classique, avec l'aviation classique, n'a pas vraiment encore été fait. Dans un contexte U-Space avec des opérateurs U-Space qui sont des opérateurs d'un genre nouveau et des services d'un genre nouveau, avec des services ultra-digitaux, etc. Donc tout ça, ça va être retravaillé. Mais il n'y a rien d'infaisable, évidemment. Alors, oui, voilà par exemple un exemple dans ce tableau-là, qui est une des annexes du règlement U-Space, vous avez les responsabilités qui sont précisées, par exemple selon l'espace aérien, selon que vous êtes dans un espace de classe A, Bravo, Echo, Fox ou Golf, vous avez, selon le régime, les règles de vol, vous savez si vous pouvez pénétrer ou pas dans l'espace U-Space et quelles sont les règles applicables. Voilà, en gros, vous voyez d'un extrême ou dans un espace de classe A, typiquement à Roissy, par exemple, où il y a en principe que du trafic IFR, donc du vol aux instruments, selon la règle pardon, de vol aux instruments, il ne pourra pas y avoir de trafic drone, de trafic U-Space. Sauf si on reconfigure, si l'ATC reconfigure l'espace de manière dynamique. Donc par exemple, en activant un corridor, ou en activant une bulle U-Space qui a été prédéfinie dans la CTR, par exemple, dans l'espace aérien de classe A, on a prédéfini une bulle U-Space et puis on l'active parce qu'il y a un besoin ponctuel de trafic US. Voilà. Et donc, le trafic U-Space, lui, opérera exclusivement, bien sûr, dans la bulle U-Space quand elle est active. Alors, le principe, c'est que son prestataire de service U-Space lui fournira une information de déconfliction plutôt stratégique, donc avant vol, entre par rapport aux autres trafics drones, En revanche, une fois qu'il aura décollé, l'opérateur de drone ne recevra que de l'information de trafic par rapport au reste du trafic. Il n'y aura pas de séparation tactique. Donc c'est une différence majeure par rapport notamment au contrôle aérien, à la gestion traditionnelle du contrôle aérien, l'espace aérien contrôlé. On se rapproche évidemment plus d'un espace aérien non contrôlé, même avec quand même des différences assez majeures. Et puis à l'autre extrême, vous avez les espaces de classe Golf, par exemple, donc les espaces aériens non contrôlés. Donc là, il n'y a plus de configuration, de reconfiguration des limites de l'espace aérien, ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas d'espace aérien contrôlé. Alors, il peut y avoir un service d'information de vol qui existe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un contrôleur aérien au bout du micro, j'entends ça dire, mais il ne fournit pas de service de contrôle. Il fournit un service, ce qu'on appelle d'information de vol, ce qui n'est pas la même chose. Les obligations légales ne sont pas les mêmes, les services ne sont pas les mêmes. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir une cohabitation drone et aviation habitée, IFR et VFR, à une condition qui n'est pas neutre, c'est que le trafic habité fournisse sa position, son positionnement au prestataire de services suspects. Et ce qui permettra donc, en particulier au prestataire de services suspects de fournir ses positions et faire de l'information de trafic à l'intérieur de la bulle space aux opérateurs de drone et qui devront faire avec. Alors, la commission a décidé que pour qu'un espace suspect pouvait avoir lieu, d'abord il faudrait qu'il y ait une évaluation de risque qui regarde les risques sécurité, mais pas que, qui regarde aussi l'environnement, qui regarde la sûreté, qui regarde tout un tas de choses. Et dans ce cadre-là, une fois qu'il y a cette étude de risque réalisée par l'État membre, il peut y avoir un espace suspect dans lequel il faut au minimum qu'il y ait 4 services qui soient implémentés, qui soient fournis par des prestataires de services suspects, qui ne sont pas forcément les mêmes. Dans les projets initiaux, il y avait obligation que ce soit le même prestataire USSP fournisse minimum ces 4 services-là. Donc là, ce n'est pas obligatoire, mais dans l'espace suspect, il doit y avoir de disponible au moins, c'est-à-dire un opérateur de drone devra avoir souscrit ce qu'il faut pour recevoir ces 4 services-là. Le Network ID, la géovigilance, c'est-à-dire le géo-awareness, le service d'autorisation de vol et le service d'information de trafic. Et il y a deux services optionnels, notamment le service météo et le service de conformance, de surveillance en gros. Enfin, pardon, pas de surveillance au sens classique, pardon, de conformance, on va dire, de conformité. Alors, le signalement électronique, c'est comme son nom l'indique, par réseau, c'est le signalement par réseau. Donc, c'est fournir sa position, ses intentions, un certain nombre de choses pour qu'on puisse créer notamment les services d'information de trafic. La géovigilance, c'est un service fourni par l'USSP qui permet justement à l'opérateur de drone de faire sa propre géovigilance. Donc, en particulier, ça donne des informations sur l'état des espaces aériens, etc. Et par exemple aussi sur l'état, notamment de la reconfiguration dynamique des espaces aériens, etc. Le service d'autorisation de vol, ce que je vous dis, c'est oublier la clairance du contrôle aérien, c'est plus la même chose. On est bien sur l'autorisation qui est pré-vol, qui est donc tactique, qui est pré-tactique, pardon, ou stratégique. Et donc qui permet pas de garantir que le drone ne rencontrera personne quand il va voler, mais qui permet en tout cas de dire qu'à un moment donné, avec les informations disponibles, au moment où l'autorisation de vol est donnée, il n'y a pas de plan de vol, on dirait potentiellement interférent. Tout ceci étant pas vraiment défini derrière. Hein. Pour l'instant, ça reste des concepts de très haut niveau. L'information de trafic, bon, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à définir, mais c'est le principe. Alors, c'est probablement pas exactement l'information de trafic au sens de l'OSCI aujourd'hui, mais c'est quelque chose pareil qui doit être défini, mais qui correspond en gros à donner des informations sur les trafics environnement afin que les opérateurs de drone puissent assurer la sécurité. Voilà en gros les grandes lignes de ces services-là qui sont encore une fois pas définis dans le détail. En revanche, ce qui est important, c'est qu'enfin, les services suspects existent, ils sont définis. Donc maintenant, il y a une base stable. Si vous venez 2-3 ans en arrière, en gros, chacun avait sa liste de service Uspace ou de service UTM. C'était pas compliqué. Alors, ça tournait toujours à peu près autour des mêmes concepts, geofencing, geoawareness, flight authorization, etc. Traffic information. Mais en gros, même les grandes lignes de responsabilité, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quelles sont les objectifs, tout ça n'était pas complètement fixé. Là, ça commence à être fixé, donc ça permet d'aller de l'avant. Alors, un impact.
Oui. Il y a une petite remarque sur le contexte du côté de Deler, sur ce qui a poussé la commission à les déférer avec un axe ségrégation plutôt qu'intégration. Et du coup, alors après je vais laisser Deler s'expliquer sur le lien avec le PDRA BVLOS.
Ouais, pardon, vous m'entendez là ?
Oui.
Okay, ouais, la question c'était effectivement si tous les pays étaient contre, pourquoi est-ce que c'est ce principe-là qui a été choisi ? Bon, ça c'était juste, je connais pas bien les pratiques. Est-ce que c'est le principe de ségrégation, c'est aussi ce qui est prévu ailleurs dans le monde ? Et le PDRA BVLOS, donc là c'est dans les analyses SORA sur les systèmes de drones, il y a des Predefined Risk Analysis, et donc il y en a un qui est orienté sur le vol hors vue, qui devrait être publié très prochainement. Dans lequel aujourd'hui on voit venir qu'il faut que les drones soient capables de détecter au moins 50% du trafic. Et du trafic, on comprend de tous les aéronefs, y compris habités. Et du coup, si finalement on prévoit plutôt la philo, c'est des espaces ségrégés avec des U-space réservés aux drones, est-ce que tout ça est fait en harmonie entre les uns et les autres, ou est-ce que chacun travaille un peu de son côté sur le sujet ?
Alors, merci. Bah merci beaucoup pour ces questions. Alors, y a plein de choses. Alors, d'abord, probablement, la commission, si le choix de la ségrégation a été fait, c'est parce que d'abord, la commission ne voulait pas faire autre chose, déjà. Et que je pense qu'elle avait raison, en réalité. C'est-à-dire que tout le monde s'est rangé à l'avis de la commission sur le fait que faire autre chose était extrêmement compliqué. Déjà, le règlement U-Space en l'état avec simplement le concept de ségrégation, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses à étudier encore. Le faire avec de l'intégration, ça multiplie, c'était exponentiel vis-à-vis des questions et des problématiques, que ce soit du point de vue technique ou juridique, et même financier. Et donc, c'était raisonnable de commencer simplement pour commencer. Voilà, donc je pense que tout le monde s'est rangé à cet avis-là. Tout le monde le regrette. Parce que l'objectif, tout le monde le regarde, mais en revanche, tout le monde est d'accord sur le fait que le vrai objectif, parce que puisqu'on n'a pas réussi à faire un règlement consensuel sur de l'intégré pur, on est en revanche tous d'accord sur le fait que c'est l'objectif. Et même la commission. La commission dit, ce règlement, c'est une première étape. Alors, ailleurs, globalement aussi, hein, ça travaille beaucoup sur la ségrégation. Hein. C'est quand même beaucoup ce qui est fait. On a la chance, c'est que globalement, il y a quand même beaucoup de besoins de vols de drones dans l'espace aérien où il n'y a pas beaucoup de demandes de trafic habité, mais en revanche, il y en a quand même. Et donc, la bonne nouvelle en revanche, c'est que nous, en France, on ne s'arrête pas là-dessus. Donc bien sûr, on va travailler sur l'implémentation de The Space, mais on travaille aussi, nous, sur une approche d'intégration. Et donc, notre programme de développement, U-Space Together en particulier, poursuit sur une approche de non-ségrégation, d'intégration des trafics. Donc avec des compléments qui permettent de compléter l'U-Space ou de préparer l'U-Space 2.0 pour une version intégrée des trafics et qui permettent éventuellement, on pourrait l'espérer, c'est peut-être qu'on pourra le tester, à faire du BVLOS dans les conditions du PDRA du S4. Du S4 ou l'équivalent. Voilà. Mais effectivement, c'était déjà assez compliqué. En revanche, bon, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Si on n'a pas une base pour s'appuyer pour la suite, on n'avance pas. Voilà, il faut à un moment donné, il faut un sol un peu solide pour pouvoir avancer.
Merci beaucoup. Et juste d'ailleurs, effectivement, le S4 en France était quand même basé à la base, enfin, sur de la ségrégation. On imagine, ça n'est pas complètement, mais on imaginait quand même que en dessous d'un certain, de 500 pieds ou de 150 mètres, il n'y aurait pas de trafic. Quoi.
C'est vrai, alors qu'en réalité, il y a du trafic même en dessous de 500 ou 400 pieds. Certes, pas beaucoup, mais il y en a. Dans les impacts, donc un autre impact important concerne l'aviation habitée qui devra, si elle pénètre le space, se faire connaître auprès du SSP. Et là, pareil, une fois qu'on a dit ça, donc c'est ce qu'on appelle l'électronique conspicuity, enfin ce que la commission appelle l'électronique conspicuity, c'est-à-dire le fait de fournir sa position. Alors, on n'a pas dit comment. Là, ce soir, on a dit qu'il fallait juste fournir sa position, mais ça peut être de plein de façons possibles. Ça peut être... je ne vais pas donner d'exemple, d'ailleurs, mais ça peut être de plein de façons possibles, y compris dans l'esprit de l'EASA, pas nécessairement avec des moyens certifiés. Je ne sais pas si ça tiendra longtemps, parce que... en tout cas, pour les avions certifiés, je ne sais pas si ça tiendra longtemps, mais peut-être pour les appareils non certifiés, donc les ULM en particulier... voire peut-être pour les parachutistes et ce genre de choses. Je ne sais pas d'ailleurs si les parachutistes, je ne crois pas qu'ils soient vraiment visés directement, mais en tout cas, pour tout ce qui n'est pas certifié, ce sera éventuellement même de l'équipement pas certifié. Encore une fois, on verra si ça tient. Tout ça, ce n'est pas défini aujourd'hui. Donc ça, évidemment, ça va être, ça fait quand même tousser pas mal les fédérations d'aviation légère et sportive. Voilà, donc ça fera partie des points à traiter quand on créera un espace U-Space. Alors, d'un point de vue pratique, l'espace U-Space, c'est pas une classe d'espace. Donc on a, encore une fois, je vous ai présenté tout à l'heure les classes Alpha, Bravo, etc. Des espaces aériens tels qu'ils sont définis au niveau international par l'OACI. Est décliné dans, je pense, tous les pays du monde, pratiquement, en tout cas, tous les pays signataires. En revanche, donc, les espaces U-Space, il y a une particularité, c'est qu'ils devront être déclarés comme zone géographique UAS, évidemment. Donc, la zone géographique UAS que vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien le règlement 945, de 2019-947, pardon. Voilà, et donc qui définit le besoin, enfin, qui impose.
Suis-je le seul à avoir perdu Antoine ?
Non.
Ouais, moi non plus, je l'ai plus.
Ton micro est coupé.
Antoine ? Le
micro est coupé.
Attends, je vais écrire.
Un, deux, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon.
Non, alors c'est la première fois que ça m'arrive, le micro s'est coupé tout seul, j'ai touché à rien. Quelqu'un a pu me couper par accident, c'est possible. Est-ce que c'est un sabotage des Russes? Non, nous ne sommes plus dans les années 80 ou 70. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, j'ai été coupé quand?
Il y a 2 secondes, hein. On n'a pas perdu grand-chose.
Merci. Donc je disais, donc les zones U-Space seront déclarées comme zones géographiques US, pour ceux qui connaissent bien le règlement 947. Voilà, et donc en principe on pourra créer des zones U-Space à peu près partout, mais bien sûr c'est à peu près partout où on verra que les risques sont acceptables, maîtrisés, que ce sera faisable avec l'aviation, probablement avec l'aviation habitée, que ça pourra cohabiter avec l'aviation militaire, parce que je parlais des... Tout à l'heure, je parlais de l'e-conspicuity, mais ça concerne aussi l'aviation habitée, par exemple, d'État. Ce qui, si elle veut pénétrer dans un espace U-Space, bah, devra également... Enfin, en gros, soit elle respecte les règles et elle fait de l'e-conspicuity, elle le fournit sa position à l'U-Space et tout va bien. Soit elle pénètre dans l'espace U-Space à ses risques et périls, mais ça veut dire qu'elle a quand même un moyen d'assurer la sécurité. Voilà, donc il y a aussi ces problématiques-là que l'État devra prendre en compte. Et finalement, dernière grande question, ce sont les questions d'architecture des services. En gros, donc le règlement U-Space définit un cœur commun de services qu'on appelle les services d'information communs, qui permettent en particulier, par exemple, de savoir quels sont les prestataires qui opèrent dans un espace U-Space, quel est l'état des espaces aériens, quels sont peut-être les vols en cours, etc. Et donc, en gros, il y a un gros débat qui a été tranché désormais, avant, qui était entre l'école de l'architecture décentralisée et l'architecture centralisée, certains prenant impérativement d'avoir un acteur monopolistique unique au centre de tous les échanges, etc. Et à l'inverse, d'autres qui prônent une architecture décentralisée avec une fédération de fournisseurs d'informations communes. Et donc, la question, c'est comment... Donc, le règlement permet les deux approches. Si c'est en revanche une approche purement centralisée avec un acteur central, un CISP, un Common Information Service Provider unique, eh bien à ce moment-là, ce CISP devra être certifié. Donc ça devrait être, c'est un opérateur particulier qui devra être certifié. Et sinon, évidemment, il y aura des exigences applicables aux fournisseurs d'informations communes, mais l'information commune sera fournie grâce à plusieurs opérateurs différents. Donc notamment bah, les opérateurs traditionnels, les ASP, les ATSP, et les USSP, et évidemment, bien sûr, tous les fournisseurs de règles qui peuvent permettre d'alimenter, par exemple, sur l'état des espaces aériens, des zones interdites, pas interdites, etc. Voilà, donc, tout ça, ça reste à être défini nationalement, localement, régionalement, et ça sera au fur et à mesure de la construction, certainement, des espaces U-Space. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il y a encore énormément de questions, de choses à régler. Et donc, l'OASA a mis en place un groupe d'experts qui rassemble maintenant plusieurs dizaines d'experts au niveau européen. Et il y a 15 lots de travail qui ont été définis. Je ne vais pas vous faire la liste, mais vous la voyez à l'écran normalement désormais. Ces 15 groupes de travail, ces 15 lots de travail au sein du groupe d'experts, qui sont pilotés donc, par un groupe d'experts plénier, bah, doivent fournir les moyens acceptables de confronter et les guides pour permettre de décliner un peu plus concrètement le règlement U-Space qui reste en vrai, il reste encore beaucoup de choses à caler. Voilà. Alors, il se trouve que jusqu'à présent, c'était Catherine Ronflet-Lado, que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà, qui a été cooptée comme experte par le hasard. Elle était dans les groupes 1, enfin elle suivait particulièrement les groupes 1, enfin le groupe plénier bien sûr, et les groupes 1, 2 et 7, notamment. Je vais reprendre le flambeau, parce que Cathy Ronflet-Lado, donc, est chef de fonction au sein de la DSLA. Et c'est moi qui, pour l'instant, vais reprendre ce siège d'expert pour suivre ces travaux-là, voilà, qui accueillent beaucoup d'experts à l'échelle européenne. On est vraiment au début, donc comme l'a dit Olivier tout à l'heure, ces travaux sont confidentiels, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont réservés au groupe lui-même, hein, donc il n'y a pas de... Les travaux se font à huis clos, je dirais. Néanmoins, je pense qu'il est important d'échanger entre nous et aussi de porter la voix de l'industrie française autant que faire se peut. Donc, je suis à votre disposition pour cela. Si même cela, ça ne suffit pas, il y a une échéance importante qui est la publication prévue début décembre de la NPA, du projet de d'AMC et de gouvernance matérielle. Qui est la publication pour avis, pour consultation, sachant qu'en décembre, quand c'est publié en décembre, en gros, c'est plié. C'est-à-dire que ce qu'il y a dedans, ce sera très très difficile de le changer. Alors c'est tout à fait possible si vraiment il y a un consensus, une alliance forte de beaucoup d'acteurs et d'acteurs différents, ceux de différents pays et de différentes natures au sein de l'Europe. Donc c'est possible de plier une NPA, de la faire modifier une fois qu'elle est mise en consultation. Néanmoins, il est important d'agir avant. C'est pour ça qu'il est important d'influer autant que faire se peut. Et donc le programme actuel, c'est de travailler sur ces projets d'AMC qui viennent juste... Alors en fait, on vient tout juste d'avoir, la semaine dernière, fin de la semaine dernière, les premiers... draft brouillon d'AMC Gallance Metal, c'est vraiment un état très très préliminaire à ce stade. Et encore, on n'a pas tous les projets, donc c'est vraiment extrêmement préliminaire. J'ai même pas encore eu le temps de les traiter et de les analyser. C'est autant que j'ai pas encore vraiment repris les travaux à ce stade. Donc l'objectif, c'est de la commission, pardon, le hasard, puisque c'est le hasard qui est chargé d'animer tout ça. L'objectif de le hasard, c'est d'avoir les projets de documents d'AMC GM en juin. Pour qu'en gros, en juillet, ce soit disponible, qu'en septembre, il y ait une consultation un peu élargie sur le projet, et que finalement le projet, les projets de DMC et Guidance soient bouclés au mois d'octobre avant la publication. Donc voilà le planning, et j'en ai fini pour cette présentation, et je suis à votre disposition pour les questions ou les remarques. Oui, Olivier, Marianne, vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
On s'entend très bien.
Je vous rends l'antenne.
Merci Antoine pour cette présentation. Donc effectivement le livriste va être de éventuellement préparer des positions alors que les documents ne sont pas à disposition de la communauté. Enfin ils le sont tardivement. Capacité de manœuvre. Donc, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'EASA peut décider tout de même de mettre en circulation des documents qui vont-ils vraiment attendre le jalon de mise en circulation officielle ?
Alors,
est-ce que tu penses qu'on peut appuyer auprès de l'EASA en disant de par les enjeux et la complexité, il est nécessaire de faire circuler les documents avant ?
Alors, tout d'abord, formellement, formellement, il y a une phase de consultation avec des tiers ouverte visiblement prévue en septembre. Attendez, je reprends le planning. Au mois de septembre. Donc, je pense qu'au mois de septembre, il y aura une ouverture pour pouvoir consulter. Après, je vais quand même voir avec Ken Engelstad qui pilote ce groupe au niveau de l'EASA dans quelle mesure on peut, de quelle mesure officiellement on peut partager des documents. Après, je pense qu'on doit officieusement, je dois pouvoir partager les choses, très certainement, au moins sous le sceau de la confidentialité. Il faut voir comment on peut faire ça. Peut-être. Une suggestion que je peux faire, c'est que peut-être vous pouvez, certains d'entre vous peuvent remonter aussi des sujets d'intérêt particuliers, s'il y a des questions, des sujets qui vous concernent particulièrement, qui vous inquiètent particulièrement, qui vous interrogent particulièrement, des questions précises, peut-être même faire remonter, et je peux voir dans quelle mesure je peux vous consulter directement sur ces sujets-là. Voilà ce que je peux dire à ce stade, Olivier.
Ok, donc la question un peu ouverte à tout le monde, ça sous-entendrait qu'il faudrait qu'on lance une petite action au sein du groupe, déjà pour faire remonter les points d'attention ou les points d'inquiétude, après on les demande comme on souhaite, de manière à les structurer et pouvoir les partager avec toi. Ensuite ça tombera ou pas, ça y aura une correspondance ou pas avec le contenu des papiers en production au sein des working groups, ça sera un deuxième sujet, mais du coup, ça sera peut-être la première étape. Alors, sachant que quand même, hein, il ne s'agit pas ici, dans les commentaires ou dans les remarques qu'on pourrait faire collectivement, de remettre en cause le texte est existant, c'est comme ça, mais c'est vraiment sur les modalités d'application, s'il y a des points d'inquiétude, il y a des... par exemple, dans les points d'inquiétude, ça peut être que le texte... que l'application du texte puisse générer des limitations à ce, par rapport à ce qu'on a le droit aujourd'hui, dans les conditions d'accès à l'espace terrien. C'est pas à propos du texte, dans son application et dans les questions qu'il soulève.
Oui, je peux déjà te répondre, c'est difficile. Je peux à la fois déjà te répondre sans te répondre. L'objectif de personne de limiter l'accès à l'espace aérien avec l'application des nouveaux textes, mais rien n'est moins sûr. Enfin, c'est dès qu'il y a une réglementation qui apparaît, il y a une consolidation aussi. Ben, toujours l'exemple, hein, c'est l'exemple des trottinettes à Paris. Quand il y a une règle qui est apparue, les trois quarts des trottinettes qui ont disparu, quoi. Donc je peux pas. on peut pas l'exclure, mais l'objectif, c'est quand même bien de favoriser, d'accélérer le développement des opérations. Donc, c'est pas de les arrêter, de les limiter. En revanche, comme il y a un cadre réglementaire, peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a des endroits où ça va être compliqué de le faire. Il faudra trouver des solutions. Mais c'est difficile de se prédire. Enfin, globalement, je pense pas. Non. En tout cas, en gros, normalement, je n'anticipe pas. J'anticipe pas des impacts conséquents, significatifs sur les opérations qui existent déjà aujourd'hui. Il n'y a pas de raison a priori. J'en vois pas en tout cas.
Okay. Est-ce que ça vous irait comme démarche qu'on essaye de lancer une action au sein du GT pour consolider vos points d'attention ? Donc globalement, enfin, c'est pas les animateurs du GT qui vont le faire, on va ouvrir la discussion. On va les recueillir, probablement on va le format type fichier Excel pour être sûr de les collecter convenablement. Est-ce que c'est une démarche qui vous semble utile ou pas?
Ou est-ce que vous avez, ou est-ce que vous souhaitez une autre démarche?
Oui, tout à fait. Vos propositions. On est très heureux.
C'est le son qui fonctionne pas bien chez moi ou personne ne parle?
Non, enfin moi je Marianne, je t'entends bien moi. C'est Jean-Louis Real Pictures. J'entends bien, mais apparemment Antoine n'entend plus ou je sais pas. Enfin je sais pas qui vous je sais pas à qui les questions s'adressaient exactement. C'est à l'ensemble des personnes ou à lui en particulier?
Non, c'est à vous tous.
Ah, c'est d'accord.
Olivier donc suggère que l'on collecte vos remarques s'il y en a ou des points de vigilance et nous demandions si vous aviez d'autres suggestions, si vous voulez faire autrement. On est à votre écoute.
Moi personnellement, ça me convient. Moi j'avais quand même une question, la question un petit peu qui fâche. C'est que par rapport j'ai entendu que les exploitants devront souscrire une prestation auprès d'un gestionnaire. Comment va se passer cette... Enfin, est-ce que ça va être... Le truc, c'est est-ce que ça va être payant? Je suppose que oui. Et les gens vont pas faire du mécénat ou du bénévolat, je suppose.
Alors, d'abord, c'est dans les espaces suspects où faudra,
oui.
Il faudra souscrire
un... J'ai bien compris. Ça, oui, ça, j'ai
de
bien
manière
compris.
Obligatoire.
Ouais.
C'est pas à vous que je vais apprendre que rien n'est gratuit dans ce bas monde.
Ouais,
c'est normal. Et donc oui, à un moment donné, il faudra payer pour ces services-là d'une manière ou d'une autre. Alors, je dis pas qu'il y aura pas, il y aura peut-être des modèles économiques particuliers des prestataires et des services qui seront gratuits en mode freemium. J'en sais rien. Ce sont les prestataires de services qui vont définir leur politique commerciale. Il y aura peut-être des services gratuits, il y aura peut-être des services, il y aura certainement des services payants, voilà. Mais tout ça n'est pas défini aujourd'hui, très certainement parce que c'est pas le moment, c'est trop tôt, voilà. Mais oui, d'un autre côté, voilà, tout se paye et tous les services se payent.
Ouais.
Mais c'est que derrière, la condition, c'est l'accès à un espace qui serait normalement autrement. Pas accessible.
Ouais. D'accord. Ouais, c'est quand même important d'anticiper parce que moi, en tant que formateur, quand je vais former des nouveaux télépilotes, il va falloir déjà que l'on les informe de ces nouvelles dispositions et que dans leur modèle économique, ils l'intègrent. Parce que si un petit exploitant qui veut monter sa petite société avec son Mavic ou son Phantom 4 se retrouve à payer des services pour aller voler dans un espace ségrégué, ça risque de poser des problèmes et des problèmes de sécurité. Parce qu'on le voit aujourd'hui avec les aérodromes, les aéroports qui facturent leurs services, et ben il n'y a plus personne qui paye et les mecs ils y vont à l'arrache, quoi. Donc c'est vraiment un problème.
Alors, c'est pas avant 2023, ça faut quand même l'avoir en tête.
Oui, oui.
Et ce sera dans les espaces, on déclarera des espaces U-Space. Et n'est pas exclu, encore une fois, qu'il y ait des espaces dans lesquels les services seront gratuits ou de toute façon pas chers. De toute manière, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la plupart des opérateurs, beaucoup d'opérateurs aujourd'hui utilisent déjà des applications ou des plateformes web qui fournissent des services type U-Space.
Oui.
Alors, ce ne sont pas aujourd'hui des services formellement U-Space, puisqu'ils ne s'appuient pas sur une réglementation. Mais ce sont déjà des services. Et il y a même des opérateurs qui utilisent des services payants et qui payent déjà pour ce cas.
Oui. Mais en général, ce sont les grosses sociétés. En général, ce sont les grosses sociétés. Hein. C'est les petits opérateurs, les petits auto-entrepreneurs font appel soit à des sous-traitants qui font qui proposent des tarifs assez intéressants, comme Frédéric Auberger ou des choses comme ça. Mais après, moi, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent outre parce que sur certains, enfin surtout sur les protocoles, notamment, ils ne font plus de protocoles. Parce que ça coûte trop cher dans une prestation, quoi.
C'est quand même dommage. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que très objectivement, si on fait ce métier-là à titre professionnel, si on a beaucoup d'activités, j'entends, à un moment donné, ça va quand même devenir très compliqué de se passer d'un système de type USPS ou UTM.
Ah, bon, on est bien d'accord. Hein. Là, on est d'accord donc, là-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je suis d'accord.
Globalement, ça va faire quand même partie probablement de l'outillage classique de l'opérateur de gros ATM. Il y a certains futurs prestataires de services USPS que je connais qui ont plutôt des business models pas très chers. Enfin, la plupart savent que les opérateurs de drones n'auront pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans, ces services-là. Parce que leurs prestations eux-mêmes ne sont pas rémunérées à très très, très très haut. Donc ils ne peuvent pas, dépenser 200 euros par vol de drone, c'est sûr.
Voilà,
On est d'accord. Donc, oui. La plupart des prestataires service space sont quand même calés, ont des business models adaptés à ce que seraient payés des opérateurs de drone.
D'accord.
Ils sont globalement réalistes.
Bon.
Et la commission prévoit un marché de toute manière, donc avec une mise en concurrence de ses prestataires. Donc s'il y en a un qui était trop gourmand, il n'aurait pas de business. Hein,
Ok, très bien.
Christophe, j'ai une question pour toi, Antoine, sur le Christophe Mazel. Hein. Sur le planning, en fait, c'était pour la. Quelle est ta compréhension de l'évolution vis-à-vis de l'implémentation des USSP d'ici à 2023, parce qu'il y a une phase de transition qui se met en place. Quelle est la vision aujourd'hui de cette mise en place des services? Est-ce qu'elle sera progressive ou est-ce que tout le monde va se mettre en ordre de bataille pour être prêt en 2023?
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, tout d'abord, parce que je ne suis pas encore dans les groupes d'experts, donc je dois dire que je n'ai pas toutes les informations encore, mais je pense que je serai plus affûté dans un mois. Et que je pense que les stratégies vont être vraiment différentes pays par pays et contexte par contexte. Même pour la France, on commence à y travailler, donc je ne peux pas vous le dire. Et puis tous les bons interlocuteurs ne sont pas autour de la table. Il manque je crois que la DSAC et la DTA ne sont pas, à part Séverine, je veux dire, DTA et MCU, hein, j'entends. Hein. Tous les acteurs réglementaires de la DGAC ne sont pas autour de la table, donc ce sera difficile de vous en parler. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident de répondre à la question. Je suis prêt à mettre un billet, sur le fait que certains pays vont être très vite et être pionniers et voire déclarer tout leur espace aérien U-Space au 26 janvier 2023. Je pense à des pays qui ont une taille qui le permettent, peut-être la Belgique, la Suisse, par exemple, sans parler du Luxembourg. Pour la France, on n'aura évidemment pas cette ambition. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait cette ambition. Mais peut-être, je peux me tromper, on verra. Mais bon, comme il faut, ça exige aussi par ailleurs un équipement de l'ensemble de l'aviation habitée pour pénétrer espace-espace, c'est quand même pas tout à fait le problème quand même.
Ok. Alors, je rebondis sur la réponse parce que, en fait, la question que je me posais et qu'on se pose surtout du côté technique, hein, sur notamment les constructeurs, c'est que finalement tester ces services-là, il faut être prêt techniquement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des gaps sur les spécifications techniques. Donc je rebondis sur ce sujet en disant, finalement, est-ce que le GT U-Space a l'intention de proposer aussi d'aller dans cette direction, de collecter en fait de l'information, mais aussi des propositions techniques?
Là, je laisserai peut-être Marianne Olivier répondre ou Séverine vis-à-vis du GT normalisation.
Euh...
concerne le GT normalisation, il n'y a pas de travaux qui ont démarré concernant la déclinaison de ce règlement en exigence sécurité. Il est possible que ces exigences soient développées dans le cadre des AMC. À partir de là, effectivement, on pourrait travailler sur des normes ou en tout cas avoir des exigences qui concernent les machines. Mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est comme mon interprétation, mais pour l'instant, on est encore très amont sur règlement use space et c'est un peu tôt pour avoir des exigences techno de définies.
Oui, je pense aussi, ça va être raison.
Mais bien sûr, ça va venir et bien sûr, il faut du temps. Après, on voit bien aussi avec la réglementation européenne de manière générale que on a beaucoup d'exigences qui arrivent très vite, on manque de temps, on essaye de pallier au maximum, mais bon, ce ne sera pas oublié en tout cas, effectivement, il ne faut pas aligner la techno sur les véhicules pour que tout ça fonctionne. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut compléter. Ou un avis divergent.
Bonjour, David Elmalem, Sofrasteria. C'est une question que je vais poser, mais qui est peut-être un petit peu liée aussi. C'est le lien entre la réglementation EASA et les premiers ED qui sont sortis. Alors, je pense particulièrement à l'ED 269 sur G-Awareness, qui spécifie dans une de ses parties les interfaces geofencing qui devront être implémentées par des opérateurs. Et donc savoir quel est le lien aujourd'hui entre les travaux de l'EASA et ce qui est fait par l'EuroCAE.
Alors aujourd'hui, le lien il est surtout sur l'AMC qui correspond à la mise en œuvre de l'IR 947 et en particulier l'AMC sur l'article 15 du règlement 947, pas sur l'USPACE. Donc le lien il n'est pas sur l'USPACE, en tout cas pas à ce stade, il est plus sur comment on fournit un certain nombre d'informations de géovigilance en se basant sur le format de données introduit par le D269. Mais en revanche, l'EASA, dans le projet actuel qui, je crois, n'est pas encore publié ou même pas finalisé, ne prévoit pas une application de l'ED69 dans son entièreté, mais uniquement du format des zones géographiques, enfin des données géographiques.
D'accord, donc en fait, le modèle de données sera accepté, mais les services ne seront peut-être pas tous retenus, c'est ça?
Alors, les services ne relèvent pas, effectivement, les services relèvent du règlement 947, donc c'est. Qui n'est pas un service d'ailleurs, c'est la notion de. Dans le 947, on définit notamment, la notion de géovigilance, mais de la fonction pour l'opérateur de drone d'un côté. Et également la notion de zone géographique UAS, donc ça c'est le 947. Et par ailleurs, il y a le service de géovigilance qui est autre chose, qui à ce stade ne s'appuie ni sur le D69 ni sur rien du tout, même si on se doute bien que ça s'appuiera sur des zones géographiques UAS à un moment donné, on l'intuite bien, mais pour l'instant c'est pas défini encore. Et toujours est-il que le règlement space s'applique dans les zones du space, alors que le règlement 147, et donc en particulier les zones géographiques ES, c'est partout, y compris en dehors des espaces U-Space. Donc okay. C'est quand même une différence importante.
Merci.
Je vois qu'il est 15h02.
Ouais, je dois filer.
Je vous redonne l'antenne. Je vous rends l'antenne, comme on disait dans les années 50-60.
Voilà, écoute, je propose que l'on clôture cette réunion. Donc on va distribuer les slides et puis organiser la collecte des points de vigilance au sein du GT. On va revenir d'ici quelques jours pour présenter un petit plan de marche avec quelques dates de manière à pouvoir permettre aux multiples de personnes d'intervenir et de faire part de leurs commentaires. Merci beaucoup en tout cas Antoine pour la présentation, Séverine pour les compléments. Merci à tous pour votre participation et puis on se tient au courant très très vite par email.
Merci beaucoup. Merci Marianne, Olivier, Séverine. À tous. À tous. À bientôt.
Parfait. Merci. C'était merci très enrichissant. C'était très bien.
Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir.